Et tout de suite, c'est notre rendez-vous aujourd'hui, l'économie. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
Avec vous, on s'intéresse ce matin à des structures très connues sous le nom de Family Offices, comprenez, gestionnaires de patrimoine familiaux, qui font de plus en plus parler d'elles, et pas forcément en bien, on va le voir. D'abord Stéphane, expliquez-nous exactement de quoi on parle.
Alors, ces Family Offices sont, vous le disiez, des sociétés privées de gestion de patrimoine pour des personnes fortunées, voire très fortunées, bref, les super riches. Disons-le tout de suite, et vous vous en doutez, le secteur est très secret, avec une double mission, gérer l'argent des concernés tout en le faisant fructifier, et donc à la fin, évidemment, les rendre encore plus riches, pour résumer, à préserver le patrimoine et rechercher de la rentabilité.
Alors pourquoi dans le milieu des affaires on parle de plus en plus de ces structures ?
Eh bien d'abord parce qu'elles sont de plus en plus sollicitées et deviennent de plus en plus importantes, mais aussi et surtout parce qu'il y a de plus en plus de milliardaires. Au cours de la dernière décennie, d'après la banque UBS, le nombre d'ultra-riches a grimpé de plus de moitié, ce qui implique davantage de demandes de services de family offices. Le cabinet Deloitte recense aujourd'hui plus de 8000 structures de ce type dans le monde, gérant, écoutez bien, 3100 milliards de dollars d'actifs. Dans 5 ans, en 2030, ce même cabinet estime à 11 000 family offices à travers la planète pour 5400 milliards de dollars. Un secteur, Andréane, qui est en pleine expansion.
Et quelle forme prennent ces structures ?
Alors, pour faire court, il existe deux types de family offices. Les simples, qui gèrent une seule et unique famille. C'est avantageux, hein, car la gestion est ultra personnalisée, peu ou pas de régulation. Et puis les multi, là, elles gèrent plusieurs fortunes, ce qui réduit les coûts et permet de peser en cas d'opération financière conjointe, par exemple. Mais à l'inverse, c'est moins confidentiel que les simple et la régulation, elle y est plus importante. Alors vous me direz pourquoi ces fortunes ne s'offrent-elles pas les services de banquiers spécialisés ? Eh bien tout simplement parce que ces family offices sont beaucoup plus souples et bien moins régulées que les banques.
Et c'est pour ça qu'elles sont pointées du doigt.
Exactement, on le disait, si le milieu est secret, la structure juridique des family offices est complexe et encore plus floue. Elles ne sont pas soumises aux mêmes réglementations que les fonds d'investissement ou les banques et n'ont pas d'obligation de transparence sur leurs actifs. Critique qui est aussi récurrente concernant la concentration du pouvoir financier avec les multi-offices, ce qui peut atteindre parfois plusieurs centaines de milliards de dollars et donc être un risque sur les marchés financiers. Par exemple, en 2021 a éclaté l'affaire Archegos. Dans les grandes lignes, un family office a causé des milliards de dollars de pertes chez des banques comme Nomura, Goldman Sachs ou encore le Crédit Suisse.
Il est donc impossible de les réguler.
Alors une loi a été votée en ce sens aux États-Unis après l'affaire Archegos justement, mais le texte n'est pour le moment pas entré en vigueur et ça pourrait d'ailleurs encore attendre hein, puisque Donald Trump ne fait pas de la lutte contre la criminalité financière sa priorité. Par ailleurs, Andréane, d'autres pays et régions comptent sur ces structures et les fortunes qu'elles gèrent pour faire tourner leur économie, comme par exemple Singapour, Dubaï, Hong Kong et dans une moindre mesure la Suisse.
Stéphane Genest pour aujourd'hui l'économie, 7h20 à Paris.